Radio Kapi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Rebondissement dans l'affaire assassinat de Patrice Emery Lumumba. La justice belge a ordonné hier mardi le renvoi en procès d'Étienne Davignon, un ancien diplomate âgé aujourd'hui de 93 ans. Il est soupçonné de participer dans les décisions ayant mené à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Nous parlerons aussi dans ce journal des échanges hier à Kinshasa entre la défenseure mondiale de la paix des Nations Unies et les femmes leaders des différentes organisations sociopolitiques en RDC. Thème abordé, investir dans les femmes, c'est investir dans la paix. Cela fait 2 ans depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises. 2 ans après, le gouvernement, à travers son agence de pilotage, vient de lancer l'audit technique et financier de ce vaste projet. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé cet audit. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. D'abord, cette décision inédite de la Confédération africaine de football. Le jury d'appel de la CAF a décidé hier soir de sacrer le Maroc champion de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN, disputée au Maroc il y a 3 mois. Cela en lieu et place du Sénégal, battu sur tapis vert et donc par un score de 3-0. Nous y reviendrons dans les détails dans notre journal des sports. Nous ouvrons ce journal avec ce rebondissement dans l'affaire assassinat de Patrice Emery Lumumba. La justice belge a ordonné hier mardi le renvoi en procès d'un ancien diplomate belge. Il s'agit d'Étienne Davignon, âgé aujourd'hui de 93 ans. Il est soupçonné de participation à des crimes de guerre pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Emery Lumumba en 1961. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Je vous signale que cet événement intervient 65 ans après le fait. Des précisions avec vous, Jean-Marc Matouaki.
Selon une dépêche de l'agence France Presse, la décision susceptible d'appel a été rendue à huis clos par une juridiction d'instruction à Bruxelles. Le parquet fédéral a confirmé ces renvois annoncés à la presse par l'avocat Christophe Marchand, qui défend les descendants du héros de l'indépendance congolaise. Les procès pourraient se tenir au plus tôt en janvier 2027, d'après les sources. Premier chef du gouvernement du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, avait été renversé dès la mi-septembre 1960 par un coup d'État. Il fut exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes avec l'appui des mercenaires belges. Il avait 35 ans. Son corps fut dissous dans l'acide. Aujourd'hui, un seul homme peut encore répondre d'une éventuelle responsabilité pénale. Étienne Davignon, les seuls des mises en cause encore en vie. Cet ex-diplomate et haut fonctionnaire belge, aujourd'hui âgé de 93 ans, conteste les faits lui reprochés.
Retour ici au pays sur un autre chapitre avec un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de Bahati Lukwebo. Son dossier sera examiné ce mercredi au Sénat. Après donc le dépôt lundi d'une pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, une séance plénière est prévue aujourd'hui pour mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner cette démarche. C'est ce qu'annonce un communiqué de la rapporteure de la Chambre haute du Parlement. Pour rappel, les pétitionnaires accusent Modeste Bahati Lukwebo d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions, des accusations rejetées par son camp. Dans une déclaration faite hier mardi à Kinshasa, son parti Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, dénonce ce qu'il qualifie de cabale et prend à témoin l'opinion nationale et internationale. On écoute Guy Richard Malongo, secrétaire général de l'AFDC, dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati Masanzi.
L'AFDC saisit cette occasion pour dénoncer haut et fort une cabale montée par certaines officines obscures contre son président national statutaire et autorité morale dont le seul péché est d'avoir exprimé une pensée sur la constitution et les lois qui du reste a été déformée par ses détracteurs. Ces détracteurs vont jusqu'à mentir sur les véritables motivations de la persécution du camarade Modeste Bahati Lukwebo, les traitant injustement d'incompétents pour une matière de la compétence du bureau du Sénat. L'AFDC rejette ces fausses accusations à l'endroit de quelqu'un qui s'est toujours distingué dans la bonne gouvernance. L'AFDC apporte aussi son soutien à son président national statutaire et autorité morale du parti, les camarades Modeste Bahati Lukwebo, dont la loyauté à l'endroit du chef de l'État et l'engagement à servir l'union sacrée de la nation ne peuvent être remis en cause. L'Alliance des forces démocratiques du Congo saisit enfin cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui, pour des raisons malveillantes, s'emploient à salir les noms et l'image de notre autorité morale.
Parlons femmes dans ce journal, Mois de la femme oblige. Session d'échange hier mardi à Kinshasa entre la défenseure mondiale de la paix des Nations Unies, Mariam Boukar Hassan, et les femmes leaders des différentes organisations sociopolitiques en RDC. Thème abordé, investir dans les femmes, c'est investir dans la paix. Au cours de cet échange, plusieurs interventions au niveau des panels ont souligné la problématique de l'accès des femmes à la justice et analysé comment investir dans les femmes pour une paix durable. Mariam Boukar Hassan, poétesse originaire du Nigeria, a été l'une des animatrices de cet échange. Elle utilise l'art comme outil de dialogue, de guérison et de changement social. C'est dans ce contexte qu'elle a partagé avec l'assistance l'importance de sa vision pour soutenir les jeunes femmes congolaises confrontées aux affres de la guerre. Mariam Boukar Hassan s'explique au micro d'Askin Zigbiatayoro.
Une chose est claire, les femmes sont prêtes à faire partie intégrante et à être un pilier de résilience, un pilier pour la reconstruction du Congo. Pour moi, c'est important d'être sur place, de venir justement ici au Congo et ailleurs pour mieux m'informer sur la situation des personnes dont je veux aider à élever la voix. Pour moi, c'est important de comprendre leur contexte, leurs souffrances, leurs défis, mais aussi leurs rêves. Après ça, je peux mieux travailler sur comment élever leur voix auprès des instances nationales, mais aussi surtout internationales à travers ma voix dans différents forums internationaux et aussi sur mes plateformes sociales qui sont très suivies. Par rapport à mon travail, nous nous sommes mis d'accord avec les femmes que j'ai rencontrées à Bounia notamment, de les intégrer dans ma plateforme True My Voice, qui est une plateforme qui aide les jeunes poètes, mais aussi artistes, pour élever la voix des personnes en difficulté et des femmes. C'est ce que j'ai fait à Bounia notamment avec des femmes qui sont des défenseuses de paix, des défenseuses des droits des femmes, qui elles sont aussi confrontées à beaucoup de traumas des personnes qu'elles reçoivent, et nous avons travailler ensemble justement pour les aider à se reconstruire elles-mêmes pour qu'elles puissent aider d'autres personnes.
Puisque nous sommes en plein mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes, coup de projecteur sur celles qui transforment positivement leur communauté. À 70 ans, Anne-Marie Moulikalé incarne cet engagement. Depuis plus d'un demi-siècle, elle consacre sa vie à l'éducation des enfants à l'école primaire Moudipela à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Portrait d'une enseignante passionnée, signé Jean-Claude Lokidile.
Dans cette école, tout le monde connaît maman Anne-Marie Moulikalé. Depuis 51 ans, elle consacre sa vie à l'éducation des enfants. Chaque matin, malgré le poids de l'âge, elle est parmi les premières à arriver à l'école. Un métier exigeant, mais qu'elle exerce avec passion.
Tout d'abord, c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Le jour où il voudra, à ce moment-là, je vais me reposer. Et ce n'est pas un travail facile. La nuit, tu te lèves pour que tu sois en ordre devant les élèves. Même si on est malade, on part.
Son engagement dépasse largement les murs de la salle de classe où elle enseigne. Jean-Claude Lobo, son supérieur hiérarchique qui travaille à ses côtés depuis 15 ans, l'a décrit comme une enseignante modèle.
Elle est d'abord ponctuelle, régulière en matière de tenir des documents. Elle tient correctement.
Au fil des années, plusieurs de ses anciens élèves sont devenus enseignants, infirmiers ou encore cadres. C'est le cas de Willy Bahati, son fils aîné.
Avec ses petits-enfants, elle continue avec la même rigueur qu'elle nous a éduqués avec. Elle a le réflexe toujours de nous corriger. Elle me répond toujours que je suis une éducatrice.
Après plus d'un demi-siècle au service de l'éducation, Anne-Marie Moulikalé continue, malgré le poids de l'âge, de transmettre savoir et valeur aux jeunes générations. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
La coopération médiatique entre la RDC et la Chine au beau fixe. Nous en voulons pour preuve cette première à Kinshasa. C'est l'organisation par l'Agence congolaise de presse et l'Agence de presse Chine Nouvelle d'un premier forum des médias de deux jours à Kinshasa, soit du 18 au 19 mars 2026. Au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi au siège de l'ACP, le directeur général Bienvenu Bakoumania a fixé le thème du forum « Modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, exploitation conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant ». Ce forum réunira plus de 200 journalistes et des experts. On écoute Bienvenu Bakoumania au micro de Richard Junior Kamunga.
Ce forum fait suite aux accords historiques signés entre l'Agence congolaise de presse ACP et l'Agence Xinhua Chine Nouvelle en présence des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping en septembre 2023 à Pékin en Chine. Ce forum n'est qu'une rencontre formelle. Il vise à transformer le récit national et international autour du partenariat sino-congolais à travers la présentation de la RDC comme un acteur majeur du sud global et une terre d'innovation et non plus simplement comme un réservoir de matières premières. La mise en lumière de la contribution réelle et souvent méconnue des investissements chinois dans l'économie nationale congolaise. Le renforcement du réseau opérationnel entre l'Agence congolaise de presse et Xinhua pour raconter nos réalités avec nos propres mots. À l'ère de l'intelligence artificielle, ce forum souligne la volonté de la République démocratique du Congo et de la Chine de ne pas rester en marge de la révolution technologique.
Troisième numéro de notre série de reportages consacrés à la ville de Beni. À présent, nous nous intéressons à l'état de la voirie urbaine de cette ville. Devenue chef-lieu provisoire du Nord Kivu depuis plus d'une année, après l'occupation de Goma par l'AFC M23, la ville de Beni fait état à plusieurs défis, vous le savez, dont ceux liés aux infrastructures. Dans plusieurs quartiers, les routes ne sont ni macadamisées, ni véritablement aménagées. En saison sèche, la poussière en envahit les artères de la ville. En période de pluie, les voies se dégradent rapidement et deviennent parfois difficiles, voire impraticables. Cette situation complique la circulation, ralentit les activités économiques et affecte le quotidien des habitants. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Depuis qu'elle est devenue chef-lieu provisoire du Nord Kivu, la ville de Beni connaît une augmentation de son activité administrative, économique et humanitaire. Mais cette nouvelle responsabilité contraste avec l'état de ses infrastructures routières. Dans plusieurs quartiers, les routes restent en terre battue, elles ne sont pas encore macadamisées et deviennent poussiéreuses pendant la saison sèche. Cette poussière affecte la qualité de l'air et complique la circulation des piétons et des véhicules. En ces eaux de pluie, la situation se détériore davantage. Des flaques d'eau, des nids de poules et des voies glissantes rendent les déplacements difficiles et certains quartiers deviennent moins accessibles. Pour plusieurs habitants, l'amélioration de la voirie urbaine est devenue une priorité. Ils estiment que le statut de chef-lieu provisoire devrait s'accompagner d'investissements importants par le gouvernement congolais dans les infrastructures de base, notamment les routes. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Province du Maniema, avant d'aller plus loin, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la lutte contre les trafics d'oiseaux et dans la préservation de la biodiversité dans cette province. 15 perroquets gris d'Afrique, saisis récemment des mains des trafiquants illégaux, ont été relâchés dans la nature depuis dimanche dernier. L'opération menée par la Fondation Lukuru en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'est déroulée au centre de réhabilitation des Dingui dans la chefferie de Bangengele, territoire de Kailo. Retour sur cette opération avec Florence Kizalunga.
En plus de ces 15 perroquets remis en liberté, 88 autres jugés inaptes à retourner pour l'instant dans leur habitat naturel sont gardés au centre de réhabilitation pour un suivi et un traitement approprié. Lorsque ces oiseaux sont récupérés des mains des trafiquants ou des braconniers par les services de sécurité, les agents de l'environnement ou encore l'ICSN, ils sont conduits dans ces centres où ils sont examinés, soignés, nourris et conservés jusqu'à ce qu'ils soient aptes à regagner leur habitat naturel, la forêt. Le chef d'équipe du centre, Ibra Kitwanda, explique les étapes de ce travail.
Nous contrôlons les perroquets et de compter sur le nombre de plis, vérifier sur la queue, regarder sur l'état corporel de nos perroquets. Il faut que les plis ne puissent bien pousser.
Cette opération s'inscrit dans la politique du gouvernement provincial visant à restaurer l'écosystème du maniement et à faire de cette richesse écologique une source de revenus pour la province. Le ministre provincial de l'Environnement, Masumbuko Lutaka Franci.
Le travail actuellement de l'autorité provinciale, c'est de faire en sorte que tous les écosystèmes de la province attirent des investissements.
Sachez que ces centres de réhabilitation et de récupération des perroquets existent à Dingui depuis 2023. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, une famille palestinienne a été tuée le week-end du 14 au 15 mars par les forces d'occupation israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, à Tamoun, à l'est de Naplouse. Un couple de trentenaires et deux de leurs enfants âgés de 5 et 7 ans sont morts sur les coups, leur corps criblé de balles. Deux autres enfants présents dans les véhicules ont survécu. Ils ont vu leurs parents et leurs frères mourir sous leurs yeux.
L'invité.
14 mars 2024, 14 mars 2026, cela fait deux ans depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises, augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Deux ans après, le gouvernement, à travers son agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, vient de lancer l'audit technique et financier de ces vaste projet. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé cet audit. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Patrick Lumumba, vous êtes directeur en charge des opérations de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration APCSC en sigle. Qu'est-ce qui motive le lancement de cet audit technique et financier de ces contrats sur la période 2008-2024?
La lecture que nous faisons de renégociation du programme sino-congolais porte à la fois une lecture nuancée qui nécessite des critiques, mais à la fois le pragmatisme que cela exige. Et nous avons dit que nous n'avons pas tout obtenu après les renégociations de ce programme. Il y a quand même certains acquis qu'il faut reconnaître, parce que nous partons d'une estimation qui a été faite de 1 milliard et demi et nous allons vers 7 milliards. Ce n'est pas rien du tout quand même. Mais ce qui nous motive maintenant, c'est de se dire qu'il faudrait que cette partie financière puisse rencontrer quand même les préoccupations de la partie congolaise liées à la mise en œuvre des infrastructures. C'est là qu'il y a quand même un déséquilibre qu'il faudrait quand même que l'on comprenne sur les éléments de la production et sur l'impact que cela crée dans la réalisation des infrastructures.
Oui, mais est-ce que vous vous êtes concerté avec le partenaire chinois avant d'initier cet audit?
Ah bon, c'est une très bonne question. Il faudrait savoir que les audits ont été prévus dans l'avenant 5. Et l'avenant 5 constitue la résultante des attentes consenties entre les deux parties. Ce qui fait que les résultats de ces audits vont essentiellement conforter le parti. Pourquoi? Parce que au moins, il y aura un élément de transparence et de la bonne gouvernance qui sera prônée. Et ce sont des acquis qui vont nous permettre de pouvoir voir qui fait quoi, où, comment et de quelle manière.
Merci Jean-Claude Mputu, vous êtes porte-parole de la coalition des ONG Le Congo n'est pas à vendre, CENPAV en sigle. On sait que votre organisation fait le monitoring de la mise en œuvre de ces contrats sino-congolais. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en termes de réalisation des ouvrages deux ans après la renégociation de ces contrats?
La première chose à dire, effectivement, il y a eu des travaux qui ont commencé. On voit sur le terrain, mais je pense que c'est que le peuple congolais doit savoir l'exploitation a servi les intérêts du Congo. Est-ce qu'il y a eu rééquilibrage? Est-ce que la partie chinoise et la partie congolaise ont les mêmes gains dans ces contrats? C'est là où CENPAV intervient pour dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la renégociation n'a pas réussi à combler les trous. Je donne un exemple. Le montant de base du contrat estime que quand le prix du cobalt atteint 8 000 $, la partie chinoise doit verser 324 millions par an par rapport à si le prix du cobalt évolue autour de 8 000 $. Si le prix baisse au-delà de 7 000 $, les deux parties doivent se retrouver pour réévaluer la contribution de la partie chinoise. Mais au-delà de 8 000 dollars, les Chinois continuent à verser la même somme, 324 000. Or, quand on voit sur les trois dernières années ce qui s'est passé, c'est que le cuivre a été toujours au-delà de 8 000 dollars. Et quand nous faisons une estimation sur base de ces prix, en trois ans, le Congo a perdu plus de 300 millions de dollars malgré la renégociation. Donc, il y a un problème de fonds qui doit être réglé au-delà de quelques réalisations qu'on voit sur le terrain.
Merci, Lems Kamonia. Vous êtes expert en économie et finance. Vous êtes également expert en transport multimodal. Comment la RDC devrait-elle procéder chaque fois qu'elle devrait conclure des conventions avec ses partenaires pour ne plus vivre ce que nous déplorons actuellement?
Oui, merci. C'est une question qui est pertinente. Dans toute négociation, chaque partie doit d'abord savoir qu'est-ce qu'elle apporte sur la table et qu'est-ce qu'elle attend à recevoir de l'autre partie. Ça, c'est le principe de base de chaque négociation. S'agissant des contrats miniers, je crois que les plus importants devraient savoir quelles sont les réserves estimées et certifiées des gisements que nous voulons mettre dans les partenariats. On dégage un cours moyen, on regarde qu'est-ce que nous devons gagner et quel est l'apport de l'autre partie. Et à ce moment-là, nous savons dans quoi nous nous engageons. Alors, pour ce type de contrat où vous avez les dividendes qui proviennent d'une entreprise minière sont directement préaffectés pour développer les infrastructures, l'élément le plus important, c'est de savoir la capacité technique des partenaires qui sont engagés à consommer les fonds disponibles. Merci. Tout comme aussi, c'est se rassurer que les partenaires avec qui nous avons signé aient de bonne volonté pour que chaque année qu'ils libèrent la totalité de ces engagements et non pas continuer à les garder. Ce sont là autant de garanties que nous devons avoir pour nous rassurer qu'il n'y aura pas un défaut dans le cadre des contrats que nous signons.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Livin Mwingavubu et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.